Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe. Pour cette 26e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi la dimension « faire ce pour quoi l'on est payé » de l'ikigai rend heureux? Avant-dernier volet des émissions consacrées à l'ikigai, cette philosophie de vie japonaise très ancienne et d'une grande modernité, nous allons découvrir pourquoi faire ce pour quoi l'on est payé participe à notre bonheur. Bien sûr, lorsque nous imaginons être payés pour ce que nous faisons, nous pensons à une rémunération professionnelle. Mais ce n'est le cas que pour la population active occupée, comme nomme l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, les personnes de 15 à 64 ans possédant un emploi. Or, en France, ils ne représentent que 71,5% de la population totale des 15-64 ans. Chiffre à comparer avec les 79,7% des Pays-Bas ou les 82,5% de la Suède, ou encore ceux du Danemark, 78,8%, pays dont la population est jugée la plus heureuse au monde. En tout cas, d'après l'excellent livre de Malène Ridal, Heureux comme un Danois. Selon le pionnier de la psychologie positive, Martin Seligman, nous travaillons pour l'une des trois raisons suivantes. Pour exercer un emploi, dans le but d'obtenir un salaire, tenir un rôle social et participer à notre équilibre personnel. Ou pour développer une carrière, dans l'objectif d'évoluer au sein d'une profession ou d'un système, de progresser personnellement et de réaliser un projet professionnel. Ou encore, par vocation, pour atteindre l'épanouissement personnel, la réalisation de notre mission de vie pour cheminer vers le bonheur. La question se pose pour toute personne percevant un salaire ou toute autre forme de rémunération en échange de son travail, que ce soit un emploi, une carrière ou une vocation. Sur quels critères vous basez-vous pour considérer que vous êtes suffisamment rétribué? Vos références sont-elles professionnelles? C'est-à-dire appuyées sur des grilles préétablies, comme c'est le cas pour les fonctionnaires et les contractuels des services publics, ou encore à partir de fourchettes de salaire par profession, souvent proposées par les conventions collectives pour les emplois privés? Vos références sont-elles comparatives? Considérant votre salaire acceptable ou pas, en comparaison avec celui de vos collègues exerçant les mêmes missions professionnelles? Comme je vous l'avais déjà indiqué dans une précédente chronique, plusieurs études ont révélé l'influence de la comparaison à autrui sur notre sentiment de reconnaissance financière. L'expérience la plus significative a été menée auprès d'ingénieurs à qui l'on proposait deux options. Première option, gagner 50 000 euros par an en étant le mieux payé de ses collègues, qui eux toucheraient 40 000 euros. Ou, deuxième option, accepter un salaire de 60 000 euros en étant le moins bien payé de l'équipe, les collègues se situant aux alentours de 75 000 euros. Résultat, les participants à cette étude ont majoritairement préféré gagner moins d'argent à condition d'être le mieux rémunéré de son équipe. Vos références, enfin, sont-elles personnelles, basées sur vos besoins, quand être payé correctement signifie de vous permettre de vivre suivant vos propres critères d'un niveau de vie de qualité, couvrant vos dépenses de santé, de logement, d'alimentation, de transport et de loisirs. Lorsque nos critères de rémunération suffisante s'apparentent au minimum essentiel pour nous sentir confiants et épanouis, cela nous rapproche alors du concept de sobriété heureuse développé par le paysan philosophe Pierre Rabhi. Dans son ouvrage intitulé justement « Pour une sobriété heureuse », il développe l'idée que seul le choix de la modération de nos besoins et désirs, le choix d'une sobriété libératrice et volontairement consentie, permettra de rompre avec cet ordre anthropophage appelé mondialisation. Ainsi, pourrons-nous remettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et redonner, enfin, au monde, légèreté et saveur. Bénéficier financièrement du fruit de son travail, quel qu'il soit, est la conséquence de notre valeur ajoutée. Que la source de revenus soit un salaire ou le produit d'une vente, cette somme concrétise l'importance de notre rôle dans la chaîne d'interdépendance qui caractérise toute société humaine. Pour comprendre cette notion de valeur ajoutée personnelle, il suffit de prendre en compte que chaque personne, au sein d'une structure, va produire de la valeur. Cependant, elle ne pourra pas le faire seule. Chacun et chacune d'entre nous possède un ou plusieurs fournisseurs de données, de produits ou de services, sans lesquels il nous est impossible de produire. Notre valeur ajoutée dépend donc de la qualité des données ou des produits de nos fournisseurs, qu'ils soient internes à notre entreprise ou structure publique, ou extérieurs. Plus notre demande sera précise, et plus nous recevrons ce dont nous avons besoin pour produire notre valeur ajoutée. La qualité de notre relation avec nos fournisseurs est donc essentielle. De même, chacun et chacune d'entre nous possède un ou plusieurs clients pour lesquels nous produisons des données, des produits ou des services. Notre valeur ajoutée dépend donc de la qualité des données, des produits ou des services que nous fournissons à nos clients, qu'ils soient internes à notre entreprise, aux structures publiques ou externes. Plus notre demande, des attentes, des besoins et des contraintes de nos clients sera précise, et plus nous réussirons à produire notre valeur ajoutée. La qualité de notre relation avec nos clients est donc essentielle. Au sein d'une entreprise ou d'une structure publique, nous ne sommes pas un maillon d'une chaîne. Les maillons d'une chaîne sont tous identiques et tous interchangeables. Ils n'ont d'autre valeur ajoutée que leur présence. Bien au contraire, chacun et chacune d'entre nous est un producteur de valeur ajoutée, tant que son poste intègre cette composante humaine, indispensable à des interactions enrichissantes. Tant qu'un ordinateur, un logiciel ou de l'intelligence artificielle ne viennent remplacer la part d'humanité nécessaire à nos échanges. Prenez conscience de votre valeur ajoutée. Revendiquez-la en conscience pour garder l'agilité et la créativité qui vous garantira votre place à l'avenir dans votre système professionnel, quel que soit votre domaine. J'ai commencé cette chronique par les personnes possédant un emploi et une rémunération. Cependant, beaucoup de personnes, 28,5% des 15-64 ans en France, ne travaillent pas et donc ne touchent pas de salaire. Est-ce à dire que, suivant la philosophie nippone, ne pouvant compléter la sphère « ce pour quoi l'on est payé », ils ne peuvent pas atteindre leur ikigai ? Mais bien évidemment non. L'ikigai est atteignable par tous, quel que soit votre âge et vos conditions. Ainsi, pour les étudiants, les personnes au chômage ou éloignées du travail par la maladie ou l'isolement, pour les voyageurs sans attache, pour les personnes à la retraite ou en congé sabbatique, compléter ce domaine dans la recherche de leur ikigai est possible. Pour vous qui vivez l'une de ces situations, la question devient: comment tirer un bénéfice économique d'une activité que j'aime et pour laquelle je suis doué? Autrement dit, comment puis-je gagner ma vie vers plus d'autonomie financière? Dans l'archipel d'Okinawa, lieu d'origine de la philosophie et de la pratique de l'ikigai, beaucoup de personnes de plus de 80 ans continuent d'exercer une activité rémunératrice. Pêche, culture ou artisanat, vendant aux marchés locaux le fruit de leur travail. Participer à la vie économique de leur village, remplir un rôle social vivre selon un rituel rassurant, permettent à ces Japonais, qui échangent leur savoir-faire contre de l'argent largement au-delà de l'âge de la retraite, de vivre en bonne santé jusqu'à un âge très avancé. Puisque Okinawa concentre le pourcentage de centenaires par milliers d'habitants le plus important au monde. Si maintenant vous n'exercez pas de profession générant une rétribution, si vous participez à des actions en tant que volontaire, bénévole, acceptant de ne pas recevoir d'argent en compensation des talents ou tout simplement du temps que vous mettez à disposition, comment considérer que vous soyez payé ? Que pourriez-vous recevoir en retour ? Il est possible que ce soit la satisfaction de vos besoins psychologiques, tout simplement. Et ce serait déjà bien payé, non ? Revenons donc un instant sur la logique émotionnelle déjà évoquée lors de mes précédentes chroniques. Cette activité non rémunérée pourrait nourrir votre besoin de sécurité, vous apportant un cadre de référence rassurant et un lieu de liberté où exprimer et partager vos croyances, vos pensées, vos talents. Le bénévolat vous permettra aussi de satisfaire votre besoin d'identité, pour affirmer et marquer votre différence, tout en faisant partie d'un groupe, nourrissant ainsi votre besoin d'appartenance. Enfin, vos activités bénévoles donneront du sens à votre vie, vous permettront de continuer à prendre des initiatives, à vous sentir responsable, générant une sérénité sans prix. Si nous revenons sur la symbolique graphique de l'ikigai, ces quatre cercles d'influence du bonheur qui s'entrecoupent, lorsque le cercle « faire ce pour quoi l'on est doué » recoupe celui de « faire ce pour quoi l'on est payé », on retrouve nos activités professionnelles. Voilà donc une nouvelle définition de nos professions, des activités qui nous procurent une rémunération contre la mise à disposition de nos dons. Lorsque le cercle « faire ce pour quoi l'on est payé » recoupe celui de « faire ce dont le monde a besoin », on trouve nos missions. Lorsque nous exerçons des activités professionnelles ou personnelles qui nous rendent heureux et qui nous permettent de nous sentir utiles, alors nous développons bien-être et engagement, les deux ingrédients indispensables à toute motivation. Je terminerai cette chronique par cette citation anonyme, petite pépite trouvée sur Facebook. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Le conte de la semaine s'intitule « Le musicien du métro ». Un musicien de rue était debout dans l'entrée de la station L'Enfant Plaza du métro de Washington, D.C. C'était un matin froid, en janvier 2007. Il a joué durant 45 minutes. Pour commencer, du Bach. Puis l'Ave Maria de Schubert, du Manuel Pons, du Massenet et de nouveau du Bach. À cette heure de pointe, il était près de 8 heures du matin, quelques 1000 personnes ont traversé ce couloir, pour la plupart en route vers leur travail. Après 3 minutes, un homme d'âge mûr a remarqué qu'un musicien jouait. Il a ralenti son pas, s'est arrêté quelques secondes, puis il est reparti en accélérant. Une minute plus tard, le violoniste a reçu son premier dollar. Sans s'arrêter, une femme a déposé le billet dans sa soucoupe. Quelques minutes plus tard, un quidam s'est appuyé sur le mur d'en face pour l'écouter. Mais, regardant sa montre, il a recommencé à marcher. Il était clairement en retard. Celui qui a marqué le plus d'attention fut un petit garçon d'environ 3 ans. Sa mère l'a tiré, pressé, mais l'enfant s'est arrêté pour regarder le violoniste. Finalement, sa mère l'a secoué et a grippé vivement afin qu'il reprenne le pas. Toutefois, en marchant, l'enfant a gardé la tête tournée vers le musicien. Durant les 3 quarts d'heure de jeu du musicien, seuls sept personnes se sont vraiment arrêtées pour l'écouter un temps. Il a récolté en tout et pour tout 32 dollars. Quand il a eu terminé de jouer, personne ne l'a remarqué. Personne n'a applaudi. Une seule personne l'a reconnu, sur plus de 1000. Personne ne se doutait que ce violoniste était Joshua Bell, un des meilleurs musiciens sur Terre. Il a joué dans ce hall les partitions les plus difficiles jamais écrites, avec un Stradivarius de 1713 valant 3 millions de dollars et demi. Deux jours avant de jouer dans le métro, sa prestation au théâtre de Boston était à guichet fermé, avec des prix avoisinant les 100 dollars la place. C'est une histoire vraie. L'événement Joshua Bell jouant incognito dans une station de métro a été organisé par le Washington Post dans le cadre d'une enquête sur la perception, les goûts et les priorités d'action des gens. Les questions étaient: dans un environnement commun, à une heure inappropriée, pouvons-nous percevoir la beauté? Nous arrêtons-nous pour l'apprécier? Pouvons-nous reconnaître le talent dans un contexte inattendu? Une des possibles conclusions de cette expérience pourrait être: si nous n'avons pas le temps de nous arrêter et d'écouter l'un des meilleurs musiciens au monde jouant quelques-unes des plus belles partitions jamais composées, à côté de combien d'autres choses exceptionnelles passons-nous? Pour l'action de la semaine, je vous propose de prendre une feuille blanche, de la poser devant vous en largeur, en format paysage, et de la séparer en deux verticalement. À gauche, notez comment vous gagnez votre vie aujourd'hui, que cela participe à votre bonheur ou pas. À droite, imaginez comment vous souhaitez gagner votre vie dans le futur. Pour la musique du bonheur de la semaine, je vous laisse avec Daft Punk et leur titre Get Lucky. C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. Et d'ici là, soyez heureux.
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To the sun.
lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Lucky.